Je vous propose aujourd'hui de retourner à Domrémy, où se déroulaient les samedis 27 et dimanche 28 septembre un bel événement, un grand pèlerinage pour célébrer le 600e anniversaire des apparitions de Saint-Michel à Sainte-Jeanne d'Arc. Ce pèlerinage était organisé par l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, avec le concours du diocèse de Saint-Dié, et parmi les nombreuses propositions faites durant ce week-end, des conférences données en la basilique Sainte-Jeanne d'Arc. RCF était présent pour les enregistrer, et aujourd'hui je vous propose d'écouter le père Lethel, Carma Lisieux, secrétaire émérite de l'Académie pontificale de théologie. Il est intervenu le samedi 27 septembre dans la basilique sur le thème Sainte Jeanne d'Arc, Vierge et Martyr.
Espace débat sur RCF en Lorraine.
Mon père, je ne vais pas surtout divulgâcher ce que vous allez dire, mais juste pour vous présenter à l'auditoire, vous êtes un grand connaisseur de Sainte Jeanne d'Arc et de Sainte Thérèse. Il me semble que vous n'êtes pas pour rien dans la reconnaissance du doctorat de Sainte-Thérèse, docteur de l'Église. Je me souviens, j'étais au JMJ de Longchamp, à Longchamp, et il y avait une clameur quand Jean-Paul II avait annoncé ça, une clameur qui était surnaturelle et qui ne s'explique pas par la raison, je pense. Voilà, vous êtes carme, vous continuez à vous intéresser à Sainte-Jeanne d'Arc, et vous étiez à la cause... à Rome, au dicastère de la cause des saints. Et la question qui se pose, alors que tout le monde croit que c'est une évidence, Sainte Jeanne d'Arc est vierge, mais elle n'est pas martyre, selon le droit canon. Peut-être que vous allez nous expliquer pourquoi elle ne l'est pas et si elle a une chance de l'être.
Merci beaucoup. Et chers amis de Jeanne d'Arc, donc c'est pour moi une très grande joie de vous parler ici. Et je vais vous parler de Sainte Jeanne d'Arc, vierge et martyre, non pas comme une interrogation, mais comme une affirmation, selon Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église. Et donc, vous savez qu'il y a les reliques de Thérèse qui sont à la chapelle de Bermond. Thérèse et Jeanne sont les deux patronnes secondaires de la France après la Vierge Marie. Et je commencerai en citant la très belle catéchèse du pape Benoît XVI sur Sainte Jeanne d'Arc, le 26 janvier 2011, qui mettait en lumière la mystérieuse relation entre Jeanne d'Arc et Thérèse de Lisieux. Je cite ses paroles. « J'ai plaisir à rappeler que Sainte Jeanne d'Arc a eu une profonde influence sur une jeune sainte de l'époque moderne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans une vie complètement différente, passée dans la clôture, la carmélite de Lisieux s'y sentait très proche de Jeanne, vivant au cœur de l'Église et participant aux souffrances du Christ pour le salut du monde. L'Église les a réunies comme patronnes de la France après la Vierge Marie. Sainte Thérèse avait exprimé son désir de mourir comme Jeanne en prononçant le nom de Jésus. Et elle était animée par le même grand amour envers Jésus et son prochain, vécu dans la virginité consacrée. » Fin de citation. Malgré la grande différence du genre de vie et du contexte historique, les deux jeunes saintes vivent à la même profondeur l'amour de Jésus et de son Église en communiant à sa passion rédemptrice. Proches de Marie, dans la virginité consacrée, elles sont les deux plus belles étoiles de la sainteté en France. Benoît XVI, dans les textes que nous avons lus, se réfère à l'un des plus beaux textes de Thérèse dans son Histoire d'une âme, où elle nomme Jeanne parmi les martyrs, en retenant son dernier mot, le nom de Jésus, qu'elle prononce en mourant sur le bûcher de Rouen. Que Jeanne soit martyr, c'est pour Thérèse une évidence, ici comme dans tous les autres textes qu'elle lui a consacrés et que nous allons entendre. Mais surtout, c'est Jeanne elle-même qui parle de son martyre dans l'interrogatoire du 14 mars au matin. Je cite, « Ses voix lui disent, prends tout en gré, ne te chaille de ton martyre, tu t'en viendras à la fin au royaume du paradis. » Et ses voix lui disent cela simplement et absolument à savoir sans faillir. Et elle appelle cela « martyr » pour la peine qu'elle souffre, pour la grande peine et adversité qu'elle souffre en prison. Elle ne sait si elle en souffrira de plus grande, mais dans tout, elle s'en remet à notre Seigneur. » Donc, citation du procès de condamnation. Alors, le procès de condamnation, donc, c'est la source principale, puisqu'il nous rapporte les interrogatoires de Jeanne pendant 4 mois. Et ce sont véritablement les actes du martyr de Jeanne. Vous savez, dans les premiers siècles, pour certains saints, par exemple pour saint Justin, philosophe et martyr, au IIe siècle, pour saint Cyprien de Carthage, au IIIe siècle, on a les actes mêmes des persécuteurs, du tribunal romain qui les a condamnés. Et ce sont des textes bien meilleurs que les textes hagiographiques, où souvent on a rajouté toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies, mais on a enjolivé. Eh bien, pour Jeanne d'Arc, donc, on a les actes du martyr, le texte écrit par ses persécuteurs, nous rapportons très exactement ses réponses. Donc, c'est la source principale à laquelle je vais me référer et à laquelle on doit toujours se référer. Donc, toutefois, l'Église a canonisé Jeanne en 1920 comme vierge, mais non pas comme martyr. Car ce n'était sans doute pas possible à l'époque, comme il n'était pas possible de donner à Thérèse de Lisieux le titre de docteur de l'Église, malgré les demandes déjà exprimées dans ces mêmes années. Donc il a fallu attendre le pape Saint Jean-Paul II pour que Thérèse soit déclarée docteur de l'Église en 1897. De même, il conviendrait que l'Église reconnaisse maintenant le martyr de Jeanne, lui donne ce titre, donc qu'elle soit célébrée comme vierge et martyr, non seulement dans le propre de France, comme c'est le cas maintenant, mais dans l'Église universelle. Ce serait une grande lumière pour toute l'Église, dans les épreuves qu'elle traverse actuellement, dans son chemin de réforme et de purification, dans sa lutte contre le péché qui est présent en elle. La mission ecclésiale de Jeanne est encore plus importante que sa mission politique. J'y reviendrai dans la conclusion. Après avoir considéré les principaux textes de Thérèse de Lisieux, qui nous présente toujours Jeanne comme vierge et martyr. C'est le refrain de tous ces textes. Alors rappelons que Thérèse vit à la fin du XIXe siècle, qui a été marquée par une extraordinaire redécouverte de Jeanne d'Arc, aussi bien dans la littérature que dans la recherche historique, au-delà des frontières de l'Église et de la France. Les anticléricaux s'y intéressent aussi. Et donc entre 1840 et 1849, Jules Quicherat a publié une excellente édition des procès de condamnation et de réhabilitation, procès qu'on appelle maintenant plus exactement procès en nullité de la condamnation. Donc depuis sa petite enfance, Thérèse vit dans ce grand mouvement qui va aboutir à la reconnaissance de Jeanne comme vénérable le 27 janvier 1894 par le pape Léon XIII. Donc plus tard, elle sera béatifiée par Saint Pie X en 1909 et canonisée par Benoît XV en 1920. Donc Thérèse connaît bien et de façon précise l'histoire de Jeanne, hein, grâce aux nombreux livres qui lui sont consacrés et au Carmel. Il y a un très bon livre d'Henri Vallon, un livre de 600 pages fondé sur les procès. Donc il a une bonne documentation. Vous savez que la même époque, l'autre grand interprète est Charles Péguy, ils sont exactement contemporains, nés tous les deux en janvier 1873. Et en même temps que Thérèse, le jeune Péguy se passionne pour Jeanne d'Arc, qui lui inspire sa première grande œuvre, achevée en 1897, Jeanne d'Arc, drame en trois pièces, l'année même de la mort de Thérèse. Péguy a perdu la foi, il fait partie de ces incroyants dont Thérèse se sent fraternellement proche. Il pensait d'abord à un travail historique, mais il va préférer le théâtre et la poésie pour écrire l'histoire de cette vie intérieure, comme il dit. Plus tard, il retrouvera la foi et surtout l'espérance, toujours en lien avec Jeanne d'Arc. Mais alors, dans la pleine lumière de Jésus et de Marie. Donc Thérèse fera comme lui, dans ses deux pièces de théâtre sur Jeanne. Alors elle n'a pas le génie poétique et littéraire de Péguy, mais elle va entrer plus profondément que lui dans l'âme de Jeanne, dans le cœur de Jeanne, avec cette connaturalité de la sainteté, ce que Péguy appelait la représentation mystique d'un saint en un saint, d'un saint en Jésus. Alors rappelons les grands aspects de la sainteté de Jeanne que Thérèse va reprendre et déployer. Donc Jeanne d'Arc, c'est un cas unique dans l'histoire de la sainteté. Sa vie, qui n'a duré que 19 ans, présente une extraordinaire cohérence quand on la considère du point de vue de la charité, qui, selon saint Thomas d'Aquin, est mère, racine et forme de toutes les vertus. Dans le cœur de Jeanne, c'est l'unique amour de Jésus et du prochain qui anime et unifie toute sa vie dans ces trois grandes étapes qui sont la vocation, l'action politique et la passion dans l'Église. Sa vie est une véritable existence théologique. Donc Jeanne est morte en prononçant le nom de Jésus sur le bûcher de Rouen. Le nom de Marie lui est toujours associé. Sur son étendard et sur ses lettres, elle fait écrire les noms de Jésus et de Marie. Avec Jésus et Marie, Jeanne vit en communion avec toute l'Église du ciel, avec les anges et les saints qui tiennent une grande place dans sa vie, comme les messagers de Jésus, donc l'archange Saint-Michel, les saintes Catherine d'Alexandrie et Marguerite d'Antioche, vierges et martyrs, très présentes dans la piété populaire. Donc le pape François a beaucoup revalorisé la piété populaire comme un véritable lieu théologique. Et c'est le cas donc de Jeanne. Donc sa vision du monde et de l'Église est radicalement christocentrique, centrée sur Jésus, selon ses propres paroles. Sur son étendard, elle avait fait peindre l'image de notre Seigneur tenant le monde. C'est le Christ roi de l'univers dont les rois chrétiens sont les lieutenants, chacun pour son propre royaume. Concrètement, ce sont les rois de France et d'Angleterre, alors en conflit. Concernant l'Église, elle affirme « C'est tout un de notre Seigneur et de son Église ». Une affirmation héroïque lorsque les représentants de l'Église, évêques, prêtres et théologiens, la condamnent comme hérétique à la mort terrible du bûcher. Son expérience mystique, qui a commencé à l'âge de 13 ans avec les voix, est la source de son extraordinaire action politique de libération qu'elle accomplit à l'âge de 17 ans, marquée par ces deux événements principaux que sont la libération d'Orléans et le sacre de Charles VII à Reims. C'est une authentique théologie de la libération comme œuvre de justice vécue dans la charité pour l'amour de Jésus, selon les paroles de Benoît XVI. Cette action, qui a duré un an, est suivie d'une année de passion lorsque Jeanne est prisonnière, puis jugée et condamnée à Rouen au terme d'un long procès ecclésiastique. Et vous le voyez, sa mission ecclésiale n'est pas une action réformatrice comme celle de saint François d'Assise ou de sainte Catherine de Sienne, mais sa mission ecclésiale, c'est une passion souffrant et mourant à cause du péché dans l'Église. Il fallait qu'il fût ainsi fait, lui disent ses voix. Je cite toujours le procès de condamnation, vous pourrez avoir les textes, toutes les références au procès. Il fallait qu'il fût ainsi fait, en écho de la parole de Jésus ressuscité, ne fallait-il pas que le Christ souffrît sa passion pour entrer dans la gloire ? Alors, il y a une profonde unité, continuité entre ces trois grandes étapes, de la vie de Jeanne, la vocation, l'action, la passion, dans son chemin de sainteté, qui doit être toujours interprété à la lumière de l'Évangile. Dans les interrogatoires du procès de condamnation, le récit de sa vocation est comme un écho de l'Annonciation. Quand l'ange est envoyé par Dieu à une jeune fille pour lui révéler une mission inouïe, comme Marie, Jeanne donne immédiatement son consentement par le vœu de virginité, virginité d'âme et de corps, la première fois qu'elle entendit ses voix, à l'âge de 13 ans. Son action libératrice peut être interprétée à la lumière de la Visitation et du Magnificat. Comme Marie, elle est une vierge qui porte en elle la présence du Sauveur et du Libérateur. Ainsi, parmi les premiers témoins, une femme la compare à une femme enceinte, dans la hâte de voir naître son enfant. Jeanne elle-même cite une prophétie populaire selon laquelle la France perdue par une femme, Isabeau de Bavière, la mère indigne de Charles VII, la France perdue par une femme sera sauvée par une vierge. C'était, vous le voyez, une résonance politique de l'antithèse bien connue entre Ève et Marie. Enfin, la passion de Jeanne est une des plus bouleversantes imitations de la passion de Jésus, comme l'avait si bien compris Charles Péguy. Dans le même sens, on peut rappeler le chef-d'œuvre cinématographique de Karl Dreyer, La Passion de Jeanne d'Arc. Avec Marie, Jeanne vit une très profonde communion à toute la vie terrestre de Jésus, de l'incarnation à la croix. Elle assiste à la messe tous les jours, elle passe de longs moments en prière, elle communie et se confesse très souvent. Sa culture religieuse est celle de la piété, meilleure piété populaire de son temps, particulièrement de la spiritualité du nom de Jésus, que saint Bernardin de Sienne et les franciscains ont alors diffusé dans toute l'Europe. Il y avait un couvent de franciscains de l'observance à Neuchâtel. Son époque est marquée par un grand développement de la dévotion mariale, de l'Angélus, du rosaire, la fréquentation des sanctuaires, les pèlerinages dont a parlé Mgr Brugès, les fréquentations des sanctuaires de Marie. Et pensons à cette petite chapelle de Bermond, où Jeanne va prier tous les samedis avec les habitants de Greux et de Domremy. Tout ceci est abondamment documenté dans les procès. Toujours fidèle à ces données historiques, alors on en arrive à Thérèse, comment Thérèse va revivre, reprendre tout ça à sa manière. Fidèle à ces données historiques, Thérèse va pouvoir pénétrer dans toute la profondeur du cœur de Jeanne, dans une véritable connaturalité. La connaturalité de la sainteté entre deux jeunes femmes consacrées à l'unique amour de Jésus dans la virginité, animées par un immense amour pour lui et pour le prochain, dans l'Église et dans le monde, avec toujours le même horizon du ciel et du salut éternel, du salut des âmes, dans une même confrontation avec le drame du péché. L'une et l'autre ont conscience de la grande mission à laquelle le même Seigneur Jésus les a appelés. Alors il faut insister sur le fait que ce sont deux jeunes saintes, Jeanne morte à 19 ans, Thérèse morte à 24 ans. L'une et l'autre ont répondu très tôt à l'appel de Jésus, dès la petite enfance. Elles sont passées immédiatement de l'enfance à l'âge adulte. Et il faut souligner que l'adolescence n'existe pas au Moyen-Âge. La vie est beaucoup plus brève. On passe directement de l'enfance à l'âge adulte. Lorsqu'elle accomplit sa mission à l'âge de 17 ans, Jeanne n'est pas une adolescente, elle est une femme adulte, jeune et belle, vivant toujours avec des hommes, sachant commander et se faire respecter. Sa pureté est rayonnante et sa virginité virginisante, comme en témoignent les soldats, ses premiers compagnons d'armes qui ont vécu avec elle jour et nuit, et ce sont les plus beaux témoins de la pureté de Jeanne d'Arc. Pour tous, elle est la pucelle, c'est-à-dire la Vierge, qui appartient à Jésus seul. Eh bien, on trouve la même maturité chez Thérèse de Lisieux après sa grâce de Noël 1886. À l'âge de 14 ans, avant d'entrer au Carmel, elle est déjà pleinement femme, épouse et mère, épouse de Jésus et mère des âmes, selon son expression, recevant de Jésus son premier enfant en la personne du criminel Pranzini. Alors nous allons voir maintenant comment Thérèse suit Jeanne dans son chemin de sainteté, dans ce crescendo qui conduit la petite paysanne de Domremy à devenir la libératrice d'Orléans et finalement la martyre de Rouen. Nous allons voir comment la carmélite partage la profonde vie mystique de Jeanne, comment elle la rejoint dans le drame de son martyre. Thérèse est également sensible à la dimension politique de la sainteté de Jeanne d'Arc, cette dimension que l'Église a reconnue en les réunissant toutes les deux comme patronnes de la France. Donc c'est le vrai patriotisme qu'il ne faut pas confondre avec le nationalisme. Donc après la Vierge Marie et Saint Joseph, Jeanne est la sainte préférée de Thérèse de Lisieux, celle qui tient la plus grande place dans sa vie et dans ses écrits. Dans son histoire d'une âme, quand elle raconte son enfance, elle raconte en lisant l'histoire de Jeanne d'Arc qu'elle a compris sa vocation à la sainteté et aussi sa confiance audacieuse de devenir une grande sainte. Et elle entre au Carmel à 15 ans et elle va entrer plus profondément dans l'âme de Jeanne. Elle va lui dédier deux poésies et surtout deux pièces de théâtre, deux petites pièces de théâtre qui sont très belles, où la poésie alterne avec la prose. Et alors, nous allons concentrer notre attention sur ces deux pièces de théâtre. Je laisserai le texte intégral en PDF, vous pourrez l'avoir, je pense, sur le site. Vous voyez, ça fait une cinquantaine de pages, donc c'est long, et c'est quelque chose vraiment de magnifique, et je pense qu'il faudrait vraiment lire attentivement. Donc, dans ces pièces de théâtre, Thérèse est à la fois auteur, metteur en scène et actrice. Elle joue le rôle de Jeanne, elle la représente en s'identifiant à elle, et nous avons par bonheur de très belles photos de Thérèse dans le rôle de Jeanne d'Arc, et comme nous n'avons aucun portrait authentique de Jeanne, je pense que le meilleur portrait de Jeanne, eh bien, c'est Thérèse donnant son visage à Jeanne. Alors, dans ces deux pièces, Thérèse suit tout le parcours de Jeanne, dans ces trois étapes, vocation, mission, passion. Donc, et les éléments essentiels qu'elle va mettre en lumière, c'est précisément la virginité et le martyr. Vierge et martyr. Et alors, la première pièce de théâtre, La Mission de Jeanne d'Arc, donc elle est représentée le 21 janvier 1894 pour la fête de sa sœur et prieure, Mère Agnès de Jésus, donc intitulée La Mission de Jeanne d'Arc ou la bergère de Dormy écoutant ses voix. Les personnages sont Jeanne d'Arc, l'archange Saint-Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite, Catherine d'Arc, sa sœur, et Germaine, une jeune bergère de Don Rémy. Très fidèle à ses sources historiques, Thérèse représente Jeanne au moment où elle accepte pleinement son extraordinaire mission à l'âge de 16 ans, donc quand elle va quitter définitivement son village de Don Rémy. Donc à partir de ces sources, Thérèse entre dans toute la profondeur du cœur de Jeanne. Elle va l'exprimer dans des dialogues qu'elle compose. Dialogue entre Jeanne et ses voix, dialogue entre Jeanne et ses deux jeunes compagnes. Donc c'est la conclusion de la première étape de la vie de Jeanne, marquée donc par la vocation, les voix et le vœu de virginité. Dans les interrogatoires du procès de condamnation, Jeanne révèle toute la profondeur de son âme dans des réponses qui sont brèves et lumineuses, mais le climat du procès n'est évidemment pas celui de confidence spirituelle. Alors ces paroles de Jeanne vont résonner dans le cœur de Thérèse dans une sorte de dilatation, mais qui correspond profondément à l'âme de Jeanne. Je dirais, elle n'imagine pas, elle n'invente pas, elle dit vraiment du dedans, vous voyez, ce que vit Jeanne dans son amour de Jésus et du prochain. Donc dans le premier dialogue entre Jeanne et sa sœur Catherine, Thérèse rappelle la première expérience des voix à l'âge de 13 ans. Je cite: c'est vrai que depuis l'âge de 13 ans, j'entends souvent des voix inconnues. Elles sont belles et très mélodieuses. Elles me promettent que notre Seigneur me protégera toujours si je garde mon cœur pour lui seul. Garder son cœur pour lui seul, c'est prendre Jésus pour son époux. Depuis longtemps, mes voix m'ont conseillé de consacrer ma virginité à notre Seigneur sous la garde de Notre-Dame. En effet, la toute première réponse de Jeanne a été le vœu de virginité, la première fois qu'elle a entendu ses voix. Après le départ de Catherine et Germaine, commence un nouveau dialogue, le plus important, entre Jeanne et ses voix, les voix de Saint-Michel, des Saintes Catherine et Marguerite. D'abord, elles se font entendre avant d'apparaître visiblement, car en fait, dans les interrogatoires du procès de condamnation, Jeanne décrit des visions, c'est pas seulement une voix qu'elle entend, des visions corporelles, localisées en dehors d'elle-même, à la différence des visions imaginaires ou intellectuelles qui sont purement intérieures. Jeanne affirme qu'elle embrassait la terre là où elles avaient reposé, et aussi qu'elle embrassait les deux saintes. Fidèle à ces données, Thérèse ne manquera pas de mentionner le baiser que Jeanne reçoit de Sainte Catherine. Alors, Thérèse de Lisieux n'a eu ni vision ni révélation, mais elle connaît par les écrits de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix cette doctrine classique de l'Église concernant les phénomènes mystiques. Donc, elle accueille sans aucune difficulté tout le réalisme de l'expérience mystique de Jeanne. D'abord, c'est la voix de Saint-Michel qui se fait entendre en révélant à Jeanne sa mission libératrice de la France. Il parle au nom de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, qui, je cite, « veut donner à la Vierge timide une âme de guerrier ». Jeanne est effrayée, elle ne comprend pas. Mais là aussi, Thérèse traduit fidèlement la première réaction de Jeanne, répondant à ses voix, qu'elle est une pauvre femme ne sachant chevaucher ni conduire la guerre, dans le procès de condamnation. Ce message est repris et développé par Sainte Catherine et Marguerite qui parlent ensemble. C'est par nos voix que Dieu daigne te dire sa volonté. Il faut partir pour sauver la patrie, prendre l'épée pour lui garder l'honneur. Le roi des cieux et la Vierge Marie sauront toujours rendre ton bras vainqueur. Jeanne est de plus en plus effrayée. Elle va être progressivement rassurée, éclairée et consolée par les apparitions de Saint-Michel et ensuite des deux saintes. Saint Michel est l'archange qui combat le démon orgueilleux. Le Fils de Dieu a sauvé l'homme par son humilité et c'est ainsi qu'il a choisi une humble jeune fille pour cette grande mission. Je cite « Je suis Michel, le gardien de la France, grand général au royaume des cieux. Jusqu'aux enfers, j'exerce ma puissance et le démon en est tout envieux. Jadis, aussi très brillant de lumière, Satan voulut régner dans le saint lieu. Mais je lançais au milieu du tonnerre ces mots « Qui peut égaler Dieu ?» Au même instant, la divine vengeance, creusant l'abîme, y plongea Lucifer. Car pour l'ange orgueilleux, il n'est point de clémence, il mérite l'enfer. Oui, c'est l'orgueil qui, renversant cet ange, de Lucifer a fait un réprouvé. Plus tard aussi, l'homme chercha la fange, mais son orgueil par Dieu fut réparé. C'est l'Éternel, le Verbe égal au Père, qui, revêtant la pauvre humanité, régénéra son œuvre tout entière par sa profonde humilité. Ce même Dieu daigne sauver la France, mais ce n'est pas par un grand conquérant. Il rejette l'orgueil et prend de préférence un faible bras d'enfant. Jeanne, c'est toi que le ciel a choisi. Il faut partir pour répondre à sa voix. Il faut quitter tes agneaux, ta prairie, ce frais vallon, la campagne et les bois. Arme ton bras, vole et sauve la France. Va, ne crains rien, pas même le danger. Dieu saura bien couronner ta vaillance et tu chasseras l'étranger. Alors Jeanne est encore toute tremblante et c'est l'apparition de Sainte Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre, qui va la rassurer et l'aider à accepter pleinement la volonté de Dieu pour cette extraordinaire mission. Je cite « Je suis la Vierge Catherine ». Je viens des cieux te consoler, ayant la mission divine de te bénir, de te garder. Comme toi, je fus sur la terre une enfant chérie du Seigneur. Sa tendresse m'était si chère que je lui consacrais mon cœur. Entrant dans la vie, je donnai ravi à Dieu mon printemps. Je fus martyr à 18 ans. Comme Sainte Catherine, Jeanne a très tôt consacré son cœur à Jésus dans la virginité. Elle sera martyr à 19 ans. Catherine le lui annonce. Comme moi, tu seras martyr, mais Jésus te fortifiera. Toujours comme un bouquet de myrrhe, sur ton cœur il reposera. Après l'exil de cette vie, Jésus sera te consoler. Inclinant sa face bénie, il te donnera son baiser. Jeanne, enfant martyr, dans un saint délire, au ciel pour jamais, tu chanteras tous ses bienfaits. Donc dans cette très belle strophe, Thérèse se réfère à un verset du Cantique des Cantiques qui lui est très cher. Le bouquet de myrrhe, c'est Jésus crucifié reposant sur le cœur de l'épouse qui participe intimement à ses souffrances par le martyre. Jeanne avait une très grande dévotion à la passion de Jésus, comme en témoigne sa prière rapportée dans le procès de condamnation. Très doux Dieu, en l'honneur de votre sainte passion. Et pour Jeanne, le nom de Marie est toujours uni à celui de Jésus. Et c'est ainsi que Thérèse attribue à Sainte Catherine ces paroles. « Marie, l'étoile matinale, cher enfant, guidera tes pas. Et sa tendresse virginale va bientôt diriger ton bras. Après d'éclatantes victoires, l'astre dévoilant sa beauté, t'illuminera de ses gloires. » Pour Jeanne comme pour Thérèse, l'horizon est toujours la pleine communion avec Jésus et Marie dans la gloire du ciel. Et dans cette pièce, comme dans la suivante, la principale interlocutrice de Jeanne est Sainte Catherine comme vierge et martyre dans toute la fraîcheur de sa jeunesse. Et Sainte Marguerite va insister sur l'humilité de Marie. Et Catherine, finalement, s'approche de Jeanne, dépose un baiser sur son front et chante ce qui suit « Je suis ta sœur et ton amie, toujours je veillerai sur toi. » Ces paroles et ce baiser fraternel exprime ainsi parablement l'amitié entre Jeanne et Catherine, qui est au ciel, et entre Thérèse et Jeanne, qui est au ciel, dans la communion des saints. Et alors Jeanne accepte pleinement sa mission, dont Saint Michel lui révèle les étapes, Vaucouleurs, Chinon, Orléans et Reims. Catherine lui donne la palme du martyr, et Saint Michel lui donne l'épée. Et Saint Michel prophétise que le pape Léon XIII, pontife éternel, chantera Jeanne, vierge et martyr. Donc, revenez sur cette question. Alors, passons à la deuxième pièce de théâtre, Jeanne, accomplissant sa mission, qui est beaucoup plus longue, donc exactement un an plus tard, 21 janvier 95, Thérèse représente la suite de l'histoire de Jeanne, c'est-à-dire son action libératrice suivie de sa passion. Alors, nous allons concentrer notre attention sur la partie qui concerne la passion, la captivité, le martyr, car c'est la plus belle, la plus originale, la plus personnelle. Et toujours, Thérèse est fidèle aux données historiques. Donc, d'abord, elle résume l'action libératrice de Jeanne, et elle va mentionner, dans un beau dialogue avec Jean Dollon, qui était son intendant, que Jeanne a accompli une mission dans l'armée de convertir les soldats français. Donc, il faut que ceux qui se confessent et qui communient. Elle va le reprendre dans le dialogue. Donc, elle est toujours soucieuse de l'état de grâce pour elle-même, pour les autres, pour les Français comme pour les Anglais, et soucieuse du salut éternel. Donc, sur son étendard, qui est une image de paix, Jeanne avait fait peindre Notre Seigneur tenant le monde avec les deux noms de Jésus et de Marie. Dans cette lumière, Thérèse lui attribue une très belle prière exprimant tout son amour pour Jésus et Marie dans l'espérance du ciel, une espérance si forte et si vivante dans le cœur des deux saints, du cœur de Jeanne comme dans celui de Thérèse. Je cite « À vous l'honneur et la gloire, ô mon Dieu, Seigneur Tout-Puissant. Vous m'avez donné la victoire, à moi, faible et timide enfant. Et vous, ô ma divine mère, Marie, mon astre radieux, vous avez été ma lumière, me protégeant du haut des cieux. De votre éclatante blancheur, ô douce et lumineuse étoile, quand donc verrai-je la splendeur? Quand serai-je sous votre voile, me reposant sur votre cœur? Mon âme exilée sur la terre aspire au bonheur éternel. Rien ne saurait la satisfaire que de voir son Dieu dans le ciel. Mais avant de le voir sans ombre, je veux combattre pour Jésus, lui gagner des âmes sans nombre, je veux l'aimer de plus en plus. Ma vie passera comme un jour. Bientôt, sans voile, sans nuage, je verrai Jésus, mon amour. Là-bas, au céleste rivage, il m'embrassera pour toujours. » Mais avant de contempler Jésus et Marie dans la gloire du ciel, Jeanne devra les suivre dans la passion et sur le calvaire. Et c'est tout de suite la réponse de ses voiles lui annonçant le martyr. Là encore, c'est historique, quand elle était sur les fossés de Melun, ses voiles lui annonçaient qu'elle serait faite prisonnière. Donc, mais la promesse aussi qu'elle sera délivrée. Alors, dans les interrogatoires du procès, Jeanne se réfère souvent à cette promesse de ses voix qu'elle sera délivrée miraculeusement de la prison. Elle l'espère jusqu'au dernier jour, au matin de ce 30 mai 1431, quand l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, vient lui annoncer cruellement qu'elle sera brûlée le jour même. Et alors, pour cette deuxième partie, concernant la captivité et le martyr, Thérèse a eu la très belle inspiration de la situer entièrement en ses derniers jours le plus dramatiques. Donc elle va faire mémoire des événements précédents. Alors du point de vue de la création théâtrale, c'est génial aussi, il y a cette remarquable unité de temps qui caractérisait la tragédie classique. Thérèse est un génie. Donc Sainte Marguerite apparaît d'abord à Jeanne, qui attend sa délivrance promise au bout de 3 mois. Elle lui annonce la visite de Sainte Catherine qui lui donnera la palme du martyr. Mais elle est précédée par le prêtre Jean Massieu, envoyé par l'évêque pour lui annoncer sa mort le jour même. Avant cette annonce, Thérèse compose un beau dialogue entre Jeanne et ce prêtre qui est un des principaux témoins. Il a déposé à toutes les enquêtes de 1450, 1452, 1456. Donc, il s'était l'huissier chargé d'accompagner Jeanne dans sa prison et les lieux du procès. Il n'a eu aucun rôle dans la condamnation et il avait vraiment pour Jeanne une vraie compassion. Dans ce dialogue, Jeanne rappelle que ses voix l'appellent fille de Dieu, fille de l'Église. Jusqu'au bout, Jeanne n'a cessé d'affirmer son amour pour Jésus et pour son Église, alors même qu'elle était condamnée par des représentants de l'Église. Les jours précédents, Jeanne a repris son habit d'homme en prison, symbole de sa mission, en affirmant que sa mission et ses voies venaient de Dieu, ce qui est qualifié dans le procès comme réponse mortelle, responsio mortifera, dans le dernier interrogatoire du 28 mai. Le 24 mai, à Saint-Ouen, elle avait abjuré par peur du feu, comme elle le dit elle-même, en reniant sa mission, en acceptant de reprendre un habit de femme. Et alors maintenant, en rejetant cette abjuration, Jeanne devient une hérétique relapse, c'est-à-dire retombée, qui ne peut plus échapper à la mort. S'inspirant de ce dernier interrogatoire, Thérèse attribue à Jeanne ces paroles. « J'ai offensé Dieu en disant devant tout le peuple que mes voix ne viennent point du ciel. Le faux prêcheur qui m'exhortait au nom de l'Église est plus coupable que moi. Cependant, je suis prête, pour réparer ma faute, à confesser publiquement que ma mission est de Dieu. Quand même le bûcher serait là et que je sentirais la flamme, je ne dirais jamais le contraire. » Et à ce moment-là, Jean Massieu lui annonce sa condamnation. « Jeanne, votre sentence est prononcée. Vous êtes condamnée à être brûlée publiquement aujourd'hui même. Vous êtes accusée d'être hérétique, relapse, apostate, idolâtre, sorcière. » Alors, après le départ de Jean Massieu, Jeanne est bouleversée. Elle espère encore la délivrance promise par ses voix. Elle appelle Saint-Michel. Et c'est alors que lui apparaît, non pas Saint-Michel, mais Saint-Gabriel, l'archange Gabriel. Et là encore, c'est très précis, dans un des interrogatoires les plus dramatiques du procès de condamnation, le 9 mai, lorsque Jeanne est mise en présence des instruments de torture, dans la grosse tour du château de Rouen, la seule qui existe encore, elle affirme qu'elle a eu le réconfort de Saint-Gabriel. Et traditionnellement, Gabriel était identifié avec l'ange qui avait réconforté Jésus dans son agonie, dans l'évangile de Saint-Luc. Comme Peggy, Thérèse contemple la passion de Jeanne dans la passion de Jésus, d'où un très beau dialogue qu'elle compose entre Jeanne et l'ange Gabriel. Alors, je vous invite à le lire, je n'ai pas le temps de le lire en entier, mais c'est quelque chose de magnifique, justement. Et je cite le début, l'ange Gabriel apparaît. « Je ne suis pas le glorieux archange qui vint jadis armé pour le combat, mais j'ai quitté la céleste phalange afin de te consoler ici-bas. Moi, Gabriel, je volais sur la terre pour recueillir les larmes du Sauveur. Je fus témoin de sa tristesse amère, je vins du ciel pour consoler son cœur. Dans le jardin, au soir de l'agonie, je soutenais le Seigneur Tout-Puissant. J'ai vu des pleurs sur sa face bénie. J'ai vu couler son adorable sang. Mais j'éloignais des pécheurs les images. Au Dieu Sauveur, j'ai montré ses élus. Tu lui souris dans le lointain des âges. Jeanne, ton nom a consolé Jésus. » Ici, Thérèse reprend la très belle spiritualité populaire de la consolation du cœur de Jésus, heureusement réhabilitée par le pape François dans sa si belle encyclique « Dilexit nos ». Donc, alors que c'est souvent cette spiritualité était ridiculisée. Comme tant d'autres saints et saintes, Jeanne et Thérèse avaient la certitude que pendant sa passion, pendant toute sa vie terrestre, Jésus nous connaissait et nous aimait personnellement, blessé par nos péchés et consolé par tous nos actes d'amour. Et saint Thomas d'Aquin en donne la justification théologique en affirmant que Jésus avait toujours dans son âme la vision de Dieu et non pas la foi. C'est ainsi que Jeanne et Thérèse ont pu consoler Jésus dans son agonie. Et alors, donc, la suite du dialogue que je n'ai pas le temps de lire, mais alors, donc, l'archange Gabriel va montrer tout ce que Jeanne vit, eh bien, elle vit ce que Jésus a vécu dans sa passion, donc abandonnée par les siens, trahie par Judas, condamnée par le grand prêtre, voyez, et même le cri d'abandon sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, elle vit tout cela en union avec Jésus, imitation de Jésus. Alors, ensuite, Jean Massieu revient, après ce dialogue si beau entre Jeanne et l'archange Gabriel, Jean Massieu revient, Jeanne lui exprime son désir de recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Souvent exprimé par Jeanne, ce désir s'était toujours heurté à un refus. Donc elle dit « Je voudrais, avant de mourir, recevoir une dernière fois la Sainte Communion. C'est Jésus caché sous les voiles de la blanche hostie qui pourra seul me donner la force de marcher à la mort. Quand je sentirai son divin cœur battre près du mien, il me semble que le feu de son amour me fera supporter avec courage l'ardeur du bûcher. » Alors Jeanne se met en prière, apparition de Sainte Catherine qui va achever de préparer Jeanne à son martyre. Et donc Sainte Catherine va citer les chapitres 4 et 5, 3, 4 et 5 du livre de la Sagesse sur la mort prématurée du juste. Alors Jeanne est consolée et elle dit son oui pleinement, son fiat, vous voyez comme Jésus, que ta volonté soit faite. Et c'est une très belle prière, je cite. « Seigneur, pour votre amour, j'accepte le martyre. Je ne redoute plus ni la mort ni le feu. C'est vers vous, ô Jésus, que mon âme soupire. Je n'ai plus qu'un désir, c'est de vous voir, ô mon Dieu. Je veux prendre ma croix, doux sauveur, et vous suivre. Mourir pour votre amour, je ne veux rien de plus. Je désire mourir pour commencer à vivre. Je désire mourir pour m'unir à Jésus. » Donc, Massieu revient, Jeanne va recevoir la communion. Elle dit qu'elle terminera son action de grâce au ciel. Alors enfin, là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais de dernière étape de la participation de Jeanne et Thérèse dans la Passion de Jésus, Thérèse a été bafouée, Thérèse et Jeanne ensemble, par un franc-maçon, Léo Taxil, qui connaissait bien les sources de Jeanne d'Arc. Il avait fait un usage pervers, l'histoire de Diana Vaughan. Donc il avait fait une conférence de presse à Paris et il avait projeté la photo de Thérèse dans le rôle de Jeanne d'Arc. Thérèse avait cru à cette histoire, comme le pape Léon XIII aussi, qui avait été trompé. Donc Thérèse et Jeanne réunies dans la trahison de Léo Taxil, vous pourrez lire ça. Alors, j'arrive à la conclusion. Donc nous avons vu comment Thérèse caractérise toujours Jeanne comme vierge et martyr. Son martyre à Rouen est le sommet de sa sainteté, l'identification avec Jésus dans sa passion. Comme saint Étienne, le premier martyr, elle meurt en invoquant le nom de Jésus, en acceptant pour l'amour de Jésus la mort si douloureuse et injuste qui lui est infligée par ses persécuteurs. Cependant, comme je le disais déjà au début, l'Église n'a pas reconnu ce martyr de Jeanne. Et cela nous invite à réfléchir sur le caractère si particulier et unique du martyr de Jeanne comme martyr ecclésial à l'intérieur de l'Église, car ses persécuteurs sont tous d'importants représentants de la hiérarchie de l'Église, évêques et inquisiteurs, prêtres et théologiens de cette université de Paris qui était alors une des plus importantes institutions ecclésiastiques. De manière unique, Jeanne est martyr de l'Église, dans l'Église, par l'Église et pour l'Église. J'avais développé cela quand j'avais prononcé le panégyrique de Jeanne d'Arc à la cathédrale de Rouen. Pour pouvoir reconnaître un tel martyr, l'Église aurait dû mettre en pleine lumière la figure de ses persécuteurs et leurs intentions, mettre en évidence une si dramatique manifestation du péché dans l'Église institutionnelle. Telle est en effet l'indispensable reconnaissance du martyr formel ex parte persecutoris de la part du persécuteur dans les causes de martyr. Je dis parce que j'ai travaillé pour une centaine de causes de béatification et notamment des causes de martyr. Or, toute la période de la béatification et de la canonisation de Jeanne était caractérisée par le plus extrême anticléricalisme, particulièrement en France. Donc, il ne convenait pas de donner un tel relief aux persécuteurs ecclésiastiques de Jeanne, les anticléricaux s'en chargeaient suffisamment. Donc le procès de condamnation est une bouleversante confrontation entre la sainteté et le péché à l'intérieur de l'Église, entre la sainteté de l'Église et le péché dans l'Église, représenté par tous ces ecclésiastiques qui l'ont condamné. Dans la plus intime union avec Jésus, signe de contradiction, Jeanne a souffert une telle contradiction de la part des pécheurs, une contradiction absolue à tous les niveaux de sa vie et de son être. En effet, au-delà de l'évidente opposition politique, on voit chez ces ecclésiastiques leur hostilité envers une laïque et l'orgueil des théologiens de l'université en face d'une mystique illettrée. Mais plus profondément encore, Jeanne est une femme accusée et condamnée par des hommes. Menacée de la torture, du bûcher et de l'enfer, elle est aussi menacée dans sa virginité, ayant dû résister à des tentatives de viol dans sa prison. Et c'est une des raisons de sa préférence pour l'habit d'homme qui la protégeait davantage. Ce martyr ecclésial de Jeanne prend tout son sens dans la lumière du Concile Vatican II, qui a fait resplendir de façon nouvelle le visage marial de l'Église, ce visage féminin de Marie l'Immaculée, sans tache ni ride. Et c'est dans cette pure lumière qu'il est possible de considérer la douloureuse présence du péché à l'intérieur de l'Église, de cette Église en pèlerinage qui, comme dit le Concile, est « sancta simul et semper purificanda », en même temps sainte et ayant toujours besoin de purification. Dans cette lumière, Jeanne représentait merveilleusement ce visage féminin, marial et virginal de la sainteté de l'Église, en face de ses juges, qui représentaient un visage masculin déformé par le péché, par un effrayant abus de pouvoir et clérical, la forme plus extrême du cléricalisme. Jeanne a été la victime innocente d'un des pires abus commis par des membres de la hiérarchie de l'Église, abus de pouvoir et de savoir, abus de conscience, puisqu'on exigeait d'elle, au nom de l'obéissance à l'Église, de renier radicalement le témoignage de sa conscience, en attribuant à l'esprit du mal, au démon, toute son expérience mystique, sa vocation et sa mission. Dans la grande et douloureuse purification que représente la lutte de l'Église contre les abus, donc il conviendrait que l'Église lui reconnaisse maintenant le titre de martyr, comme témoin lumineux de la sainteté de l'Église dans la pure lumière de Jésus et de Marie. Je vous remercie.
Merci mon père de cette magnifique conférence. J'avais oublié de dire que tout à l'heure en introduction que vous êtes carme. Voilà, on va passer aux questions. J'ai peut-être une première question par rapport aux abus cléricaux dont vous venez de parler. On peut peut-être rapprocher ça de Sainte Jeanne Jugant, qui est victime d'un abus clérical, qui est un abus hallucinant quand on y pense, puisqu'il a fallu 120 ans pour que la vérité soit révélée par sa béatification. Est-ce que, en luttant contre les abus ecclésiaux, finalement, on empêcherait certains martyrs? Enfin, à l'heure actuelle, Jeanne Jugant, elle aurait porté plainte, elle n'aurait peut-être jamais été sainte. Et pour Jeanne d'Arc, peut-être un peu la même chose.
Merci beaucoup de rappeler ce cas de Jeanne Jugant. Il y en a beaucoup d'autres. Aussi, la bienheureuse Thérèse de Soubiran, qui a été même chassée de sa congrégation. Et donc, alors, Jeanne Jugant, elle a été mise dans l'ombre. Donc, et de fait, c'était un ecclésiastique, le bon père, là, qui... Donc, il y a quantité de cas, vous voyez, justement, de souffrance, et c'est la plus douloureuse, justement, que souffrance causée par des représentants de l'Église qui, normalement, devraient servir et qui, au contraire, mettent des obstacles. Et il y a quantité de cas. Donc, je suis sûr que tout est grâce, vous voyez, que cette attitude de l'Église, justement, de lutter de façon plus décisive, tout faire pour empêcher de tels abus, c'est quelque chose d'important. Donc, vraiment, je crois, une purification. Alors, ce qui est important, vous voyez, c'est que on parle trop des abus et on ne parle pas assez de la sainteté. Moi, je pense, justement, en travaillant pour les causes des saints, je pense que le plus important, justement, dans la lutte contre les abus, c'est de montrer la sainteté, la présence de la sainteté dans l'Église. Vous voyez que le dernier mot, comme dit le pape François dans son l'exhortation apostolique, c'est la confiance qui est si belle, il dit... Le péché du monde est immense, mais n'est pas infini. L'amour de Jésus Rédempteur est infini. Vous voyez? Donc, et que c'est véritablement, je dirais, c'est en devenant des saints et des saintes que nous pouvons le plus lutter contre les abus, et en sachant que justement, tant qu'on n'est pas parvenu à la sainteté, eh bien, notre cœur est quand même, il y a de l'ivraie en nous, il y a de la mauvaise graine, et il faut être très vigilant. Vous voyez, vigilance des pasteurs de l'Église, justement, mais je comprends que c'est quelque chose d'important et que donc la reconnaissance du martyr de Jeanne sera une grâce, justement, de voir une sainte victime, vous voyez, comment elle s'est pas révoltée, c'est ça qui est merveilleux. Elle a continué à dire « j'aime l'Église », vous voyez, mais aussi le courage qu'elle a eu dans une solitude absolue, alors qu'apparemment, elle était rejetée, condamnée comme hérétique, et plus tard, l'Église reconnaîtra que c'était une grande sainte.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Est-ce qu'il est interdit de dire comme Jeanne d'Arc, évêque, je meurs par vous?
Non, merci. Je n'ai pas eu le temps de citer le passage, mais puisque vous le dites, le passage que j'ai dû sauter à cause du temps, que Thérèse a bien épinglé, donc elle répond dignement donc à l'évêque Cochon quand il prononce la sentence, évêque, c'est par vous que je meurs. Je ne suis pas une hérétique. Je suis fille de l'Église. Et le roi pour lequel j'ai combattu est un roi très chrétien. Hein? Donc, si j'avais été conduite à Rome, le Saint-Père aurait bien reconnu que je suis innocente. Voilà. Vous voyez, donc, cette réponse, donc, qui est une réponse magnifique, oui, évêque, je meurs par vous. Donc, merci de l'avoir... Oui, alors c'est ça, de quoi, vous voyez le courage aussi de dire, voilà, et on voit, même rappelez-vous comment même les apôtres, les saints apôtres, comment saint Paul a résisté plus qu'à saint Pierre à Antioche, Pierre s'était mal comporté, vous voyez, et donc saint Paul va, donc il y a une correction fraternelle. Donc je pense, vous voyez, que même le devoir, toujours avec respect, avec amour, dire même aux pasteurs quand ils font mal, vous voyez. Mais de faire toujours dans un esprit de construction, vous voyez, hein, pour le bien de l'Église, pour le bien de la personne.
Merci mon père pour cette belle conférence. Je reviens sur le thème de la différenciation entre l'Église sainte et le péché dans l'Église. Bon, on comprend bien sûr que les hommes d'Église sont des hommes... pêcheurs, comme tout le monde, si je puis dire, avec les mêmes faiblesses. Mais comment définir la sainteté de l'Église? C'est ça qui est difficile à associer. Des hommes pêcheurs ecclésiastiques, qui constituent l'Église visible, hiérarchique, et le fait que l'Église elle-même est sainte.
Oui, merci. Et vous voyez, donc le pape Benoît XVI, un très bon théologien, distingue bien la sainteté de l'Église, le péché dans l'Église. Et vous voyez, donc l'Église est sainte, mais elle est composée de pécheurs, donc ce n'est pas seulement les membres de la hiérarchie, nous tous. Et alors, c'est là, je pense, que le Concile Vatican II a apporté une lumière tellement précieuse, le chapitre 8 de la Constitution Lumen Gentium, sur le Marie dans le mystère du Christ et de l'Église. Pour Paul VI, c'était le couronnement de tout l'enseignement du Concile. Donc, vous voyez, on était plus habitué à voir l'Église à travers l'apôtre Pierre. Bon, Pierre, saint Pierre, mais c'est quand même un pécheur. Il a renié Jésus. Marie, elle est l'Immaculée. Voyez. Donc, voir en Marie la sainteté parfaite de l'Église, toute pure, toute belle, sans tache ni ride, vous voyez. Donc, ça donne une lumière. Le Concile, l'autre chapitre important, c'est l'appel universel à la sainteté. Vous voyez, donc il y a une insistance nouvelle sur la sainteté à laquelle tous sont appelés à travers toutes les vocations, aussi bien à travers le mariage qu'à travers la vocation consacrée, la vie religieuse. Et donc je pense c'est ça, donc le voir donc Jésus qui est le Sauveur, hein, donc son amour infini, le Rédempteur qui est mort, le péché n'aura jamais le dernier mot. Le dernier mot, Jésus l'a déjà eu dans sa résurrection. Vous voyez, c'est la victoire définitive. Et alors, eh bien, jusqu'à la fin des temps, l'Église de la terre, l'Église en pèlerinage, Ecclesia Viatorum, justement, elle sera toujours, justement, dans ce chemin de conversion, de conversion permanente, de purification permanente.
En vous écoutant, j'ai pensé, quand vous parliez de l'imitation de Jésus, que le livre préféré de Sainte Thérèse, c'était l'imitation de l'enfant de Jésus, oui, oui, avec les évangiles. Oui. Et j'ai pensé que peut-être que celui qui avait écrit ce livre de l'imitation de Jésus avait été contemporain de Jeanne d'Arc et avait contemplé la vie de Jeanne d'Arc et avait pu écrire ce livre d'une profondeur extraordinaire. Je crois que j'ai lu que c'était peut-être un monsieur nommé Gerson qui avait écrit ce livre. Est-ce qu'on sait maintenant aujourd'hui ?
Merci beaucoup. De fait, certains avaient attribué l'imitation de Jésus-Christ à Gerson. Et Gerson donc a été le premier théologien à approuver Jeanne d'Arc en 1429. C'est tout à fait étonnant. Il est mort peu de temps après. C'est son tout dernier écrit, un tout petit opuscule, mais qui est inséré dans le procès de réhabilitation, donc en faveur de Jeanne. Donc, vous voyez, en 1429, 2 ans avant le procès de condamnation. Et alors ensuite, ce sera beaucoup plus tard, après 1450, qu'il y aura tous ces théologiens qui réhabiliteront Jeanne d'Arc en montrant son innocence. Alors, actuellement, je dirais que historiquement, ça n'est plus accepté. Maintenant, en fait, on attribue l'imitation à Thomas Kempis, ça n'est pas accepté non plus. Les Salésiens italiens ont fait une édition scientifique, on a découvert des manuscrits du XIIIe et XIVe siècle, donc en fait ce serait un texte beaucoup plus ancien, l'imitation de Jésus-Christ, qui ne viendrait pas du tout de la Devotio Moderna, mais de milieu monastique italien. Mais ce que vous disiez est très juste. Donc, Thérèse connaissait l'imitation de Jésus-Christ par cœur, avant même de lire les Évangiles ou les Saints du Carmel. Et c'est vraiment le livre qui a centré toute sa vie sur l'amour de Jésus. Hein, vous rappelez, surtout dans le livre 3, c'est un livre qu'il faut reprendre, qu'il faut relire, qui est une merveille, où vraiment toute la vie spirituelle est vue dans un cœur à cœur avec Jésus. Ce qui sera et donc l'imitation, et tout spécialement la passion. C'est un chapitre merveilleux sur la sainte voie de la croix. Donc merci beaucoup d'avoir rappelé. Et de fait, c'est le climat dans lequel Thérèse vit, on peut dire Jeanne aussi, vous voyez cette piété populaire si tendre du XVe siècle. Donc c'est bien, merci pour l'avoir précisé cela.
Très bonne version de l'imitation par Pierre Corneille en vers, qui est magnifique.
Oui, merci beaucoup mon père pour vos paroles très fortes. Et donc, je comprends qu'on peut espérer que l'Église reconnaisse Jeanne comme martyr. Je suis ravie, je vous remercie de tout cœur. Alors, vous avez dit que ce qui avait bloqué cette reconnaissance, c'est peut-être l'atmosphère anticléricale qu'il y avait à l'époque. Ça aurait donné de l'eau au moulin aux anticléricaux. Et donc voilà. Alors, je me permets, je ne sais pas si j'étais à la Salette assez récemment, et à propos des grandes difficultés aussi qu'on a faites au message de la Salette, on a mis aussi en avant que si on avait tellement un petit peu édulcoré le message, c'est précisément pour ne pas donner de l'eau au moulin aux anticléricaux. Je ne sais pas si...
Alors, j'avoue que j'ai moins étudié le cas de la Salette. Là. Je ne saurais pas répondre sur la question. Il peut y avoir parfois une prudence excessive, vous voyez, de la part des représentants de l'Église. Alors, sur la question le livre auquel je ferai référence, c'est le cher abbé Jacques Olivier, vous savez, cette thèse monumentale, j'ai eu le bonheur d'être le censeur de sa thèse qui a été soutenue à la faculté de théologie de Toulouse il y a quelques années, qui a eu le maximum, donc summa cum laude. Donc, alors lui, vraiment, il a étudié plus que je ne l'ai fait moi-même le procès de béatification et de condamnation. De béatification et de canonisation de Jeanne d'Arc, et c'était lui justement qui m'avait montré aussi un peu le contexte pour les conditions pour lesquelles l'Église ne pouvait pas difficilement, voyez, lui donner ce titre de martyr à ce moment-là, mais aussi nous sommes d'accord, et aussi Monsieur de Malessis, enfin nous avons un comité donc pour demander, nous sommes déjà adressés à l'archevêque de Rouen, moi j'aimerais m'adresser au pape lui-même, vous voyez, puisque je garde encore un lien avec Rome, mais je pense que ce serait vraiment quelque chose de très beau. J'insiste pour que Jeanne ne soit pas seulement fêtée en France, mais dans l'Église universelle. C'est sa mission ecclésiale, son martyr à l'intérieur de l'Église, qui est quelque chose d'encore plus grand que sa mission, si belle, si importante par rapport à la France. Et je vous dis ça parce que donc j'ai vécu à Rome 41 ans, j'ai enseigné la théologie dogmatique, la théologie spirituelle, mais j'ai toujours fait chaque année un cours, enfin un certain nombre d'heures sur Jeanne d'Arc, et ça passionnait les latino-américains, ça passionnait les africains, avec des pays où le peuple souffre d'oppression, d'injustice, justement quelqu'un qui vit de façon évangélique, sans idéologie, voyez, un combat fort pour la justice et pour la libération, pour eux Jeanne était une figure absolument formidable, voyez. Donc je crois que c'est très important de voir la vocation de Jeanne, patronne de la France avec Thérèse, mais aussi je pense qu'elle a un message par rapport à l'Église universelle qui serait important de développer.
Dernière question, si jamais le pape glorieusement régnant Léon XIV accède à cette demande, il se passe quoi? On change tous les missels, on non. passe en rouge, il voilà. se passe quoi concrètement?
C'est tout simple, un petit décret de rien, un papier. Vous avez entendu parler de la canonisation des carmélites de Compiègne, sans doute. On a eu tout récemment à Notre-Dame, il y a 15 jours, une messe magnifique avec l'archevêque de Paris, les carmélites, les caramels, donc la cathédrale était pleine à craquer, pour la canonisation, rendre grâce. Et il n'y a pas eu de décret de Rome, simplement ce qu'on appelle canonisation équipollente. Hein, on les a fait passer de la catégorie des bienheureuses à la catégorie des saintes. Donc, vous voyez, ce serait extrêmement simple, simplement, le pape décide. Et, alors, pour le, Non, je pense qu'il faudrait une position. Il faudrait justement argumenter théologiquement. Nous allons y travailler. Mais donc, ce serait extrêmement simple. De même que le pape, vous voyez, pensez, Thérèse de Lisieux, le pape Pie XI, qui l'a canonisé, en 1927, l'a déclaré patronne des missions. Plus tard. En 1997, le pape Jean-Paul II l'a déclaré docteur de l'Église, vous voyez. Donc, il n'y aurait aucune difficulté. Jeanne, vierge, et maintenant déclarée aussi vierge et martyre. Ce serait très simple.
Vous venez d'entendre le père Lethel, Carme à Lisieux. Cette intervention a été enregistrée le samedi 27 septembre dans le cadre du Grand Pèlerinage organisé par l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. C'était à Domrémy. Les trois conférences données dans ce cadre ont été enregistrées par RCF et sont disponibles sur rcf.fr.